Bah, je suis trop heureuse, trop fière de ce spectacle. C'est vraiment un spectacle où je suis seule en scène, mais qui raconte vraiment une mue, qui raconte une renaissance. J'ai vraiment travaillé énormément ma setlist en intégrant aussi des morceaux des deux premiers albums. Et voilà, je voulais vraiment que les gens assistent à une renaissance et qu'ils vivent cette renaissance avec moi, qu'ils se sentent plus libre à la fin du concert. Comme moi, je me suis sentie plus libre après ma traversée du désert. Et ça fonctionne bien.
Bonjour à tous, vous écoutez Cadavre Exquis, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois la chanteuse Nash. Elle vient de sortir son troisième album, Peau Neuve, qu'elle a écrit et composé lors d'un voyage initiatif au Maroc. Un disque qui sonne comme un recueil poétique, à la fois puissant et délicat, intime et pourtant porteur d'une sensibilité universelle. Elle y évoque notamment sa renaissance et son émancipation. Je reçois aujourd'hui Anna Chedi. Salut Anna.
Salut.
Comment ça va?
Très bien.
Merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavre Exquis, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Alors, comme on se l'est dit en off, on s'est déjà vu en 2019 pour L'Aventure. Et ce nouvel album Peau Neuve qui est sorti en octobre, c'est tout récent finalement, mais on te voit un peu partout, sur scène déjà, ce qui n'est pas forcément très commun dans l'industrie musicale. Normalement, il y a un certain délai. Comment ça se passe pour toi?
Ma volonté première dans la musique, c'est de faire de la scène. C'est vraiment le cœur de mon métier, pour moi, c'est la scène. C'est un art vivant, la musique, vraiment à mon sens. Donc, quand j'ai parlé à mes tourneurs, mes producteurs de spectacles de ce nouvel album, je leur ai dit vraiment, mon rêve, ce serait de sortir cet album et d'être déjà sur scène. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mon premier concert, c'était le 7 octobre et la sortie de mon album, le 20 octobre. Et depuis, j'ai fait plein de concerts. Parce que pour moi, tout prend son sens en live, et c'est de l'art vivant, quoi. Donc moi, j'adore faire des albums, j'adore être en studio, mais ce que j'aime le plus, c'est de chanter et de jouer pour les gens en vrai, quoi.
Et là, t'as posté quelques petites stories aujourd'hui de retours que t'avais eus. Ça a l'air d'être superbe.
Ouais, c'est très très beau ce qui se passe, parce que je suis seule sur scène, mais après j'ai beaucoup de machines, j'ai un piano à queue, j'ai des sampleurs, j'ai des synthés, enfin, c'est vraiment femme orchestre, j'enregistre énormément de choses en direct. J'ai quelqu'un qui est en coulisses et qui s'occupe d'enregistrer en direct tout ce que je fais et tout ça. Techniquement, c'est assez ardu, mais je suis seule. Et donc, il y a vraiment aussi une espèce de prise de risque énorme, et les gens ressentent ça aussi, que je me mets vraiment à nu et que je prends vraiment énormément de risques à tous les niveaux sur cet album et dans ce live aussi. Et donc, ça crée une espèce de solidarité un peu et une grande émotion. Et les retours que j'ai du concert, c'est pas juste « Ah, c'était cool, elle était bien ta chanson », c'est un truc beaucoup plus profond et émotionnel que ça, quoi.
Alors, avant de parler de ce nouvel album et de cette tournée, on va revenir non pas au début de ta carrière, mais de ton existence, pour planter vraiment le décor de ce parcours. Alors, je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi?
Je suis née à Paris. Je crois que quand je suis née, on était dans le 14e, je crois, ou dans le 5e, je sais plus. Et j'ai grandi à Paris. Je suis vraiment une Parisienne pure souche, quoi. Deux parents qui habitaient à Paris. Enfin, voilà. C'est pas de Parisien. Mon père est égyptien-libanais, mais il est venu habiter à Paris quand il était enfant. Et ma mère aussi habitait à Paris depuis toute petite.
Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier vraiment quand t'étais sous leur toit?
Mon père, auteur-compositeur-interprète, Louis Chédid, grand chansonnier, chanteur, compositeur, encore aujourd'hui, il sort des albums, il fait des tournées, il s'arrête jamais. Voilà, ma mère, styliste déco, c'était vraiment beaucoup d'artistes, hein, c'est-à-dire que ma mère a vraiment une vision très artistique de la vie et des choses, un regard beaucoup sur l'image et tout ça. Et mon père était un poète, donc je suis née dans des studios de musique, dans des décors, dans de la poésie, quoi.
Tu parlais d'images, ta grande sœur Émilie travaille dans l'image aussi, elle est réalisatrice, ton frère Mathieu est dans la musique, ton frère Joseph est dans la musique, et ta grand-mère aussi, André Chédid, femme de lettres, poétesse incroyable. Si je te pose cette question, c'est que moi j'ai grandi dans l'environnement opposé.
Ouais.
Comment ça fait de grandir dans une maison où l'émulation culturelle et de l'art est partout, à chaque recoin?
Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit qui est très grande, c'est des gens créatifs qui attendent l'inspiration aussi, donc il y a une vraie ouverture d'esprit. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup porté et qui aujourd'hui fait partie vraiment de mon éducation et de ma vision de la vie et des choses. Il y a quelque chose aussi, des artistes, enfin en tout cas dans ma famille et tout ça, c'est des gens assez humanistes, des gens qui font aussi de l'art pour se relier à l'autre et pour aussi briser un peu les frontières et tout ça. Et solidariser, quoi, les gens, en fait, quoi, que les gens se rassemblent, en fait. C'est très important aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, hein, de naître là-dedans. J'ai découvert que la vie était beaucoup plus dur, que l'existence était quelque chose de dur, comme tous les êtres humains, on découvre ça quand on grandit. Mais quelque part, ce refuge poétique m'a toujours permis d'exister et de voir que la vie pouvait être belle, de voir de la beauté dans la vie, en fait. Et je pense que c'est quelque part une des plus belles clés qu'on puisse donner à un être humain.
Moi, j'allais te demander si tout cet univers t'avait attiré. J'ai l'impression que oui. Et en plus, ton frère Mathieu, il t'a pas trop laissé le choix dès l'enfance, il t'a mis dans ses clips.
Ouais, il nous a laissé le choix parce qu'il nous a demandé si on avait envie de le faire. Et moi, j'avais vachement envie de le faire. Et j'étais une enfant très timide, assez mutique. J'avais pas vraiment beaucoup d'amis et tout. Et en fait, le fait de chanter, de jouer, de créer des choses, en fait, et de sortir aussi un peu de moi, ça m'a beaucoup aidé à trouver une place. Donc en fait, j'étais en demande de ça aussi.
Et au-delà de ce que faisait ta famille, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a marqué, que ce soit un film, une pièce de théâtre, une chanson, un album, une artiste?
Ouais, quand j'étais petite, ma mère, elle écoutait Maria Callas. Et quand j'ai entendu pour la première fois Maria Callas chanter, j'ai vraiment eu j'en parle tout le temps de ça, parce que j'ai vraiment eu un espèce de... un choc émotionnel, quoi, en me disant, mais cette voix, cette femme qui chante en italien, je comprends rien à ce qu'elle dit, je sais même pas ce qu'elle chante, mais en fait je ressens une émotion, je ressens toute son âme, je ressens tout le poids de son existence et tout ça. Et je me suis dit que j'avais envie de faire ça, que j'avais envie d'exprimer ce que je ressentais, ce que je comprenais pas vraiment à l'intérieur de moi, que peut-être que c'était une manière de pouvoir l'exprimer, quoi.
J'avais lu une interview de Mathieu où il disait que votre père était désespéré parce que Mathieu ne se rebellait jamais. Et le jour où il a fait la première fois, il l'avait remercié. Ouais. Moi, je voulais savoir quel enfant tu étais.
Moi, je me rebelle beaucoup plus que Mathieu. J'étais très... je comprenais pas bien l'existence, en fait, quoi. J'arrivais là-dedans, j'étais assez timide, très sensible, ultra sensible. Donc, j'avais l'impression de ressentir les émotions de tout le monde, de presque tout comprendre, quelque part, et en même temps de rien comprendre du tout. Et je trouvais que c'était très dur d'être sensible dans un monde aussi cruel, aussi froid, aussi où il y avait des règles, où il y avait des codes, où il fallait correspondre à des trucs. Moi, je correspondais à rien, et j'étais hyper malheureuse de me rendre compte que si je correspondais à rien, j'arriverais pas à être aimée et tout. Et donc, voilà, j'ai trouvé des espèces de subterfuges et tout. Et moi, l'existence, le début de mon existence, ça n'a pas été facile. J'étais très en colère contre le fait de ne pas pouvoir être sensible, de ne pas pouvoir être imparfait, de ne pas pouvoir ne pas correspondre à ce qu'on attendait de moi et tout. J'étais très en colère contre la société, contre le système éducatif et tout, et je le suis encore un peu. Voilà, donc moi, la rébellion, non. J'ai toujours été quelqu'un qui... Je me suis toujours rebellée, en fait, quelque part. Je me suis toujours rebellée, mais de manière assez passive. Enfin, c'est pas pacifique, hein, mais je me suis toujours rebellée, quoi, en disant non, là, ça va pas. Là, je trouve que c'est pas normal et faut le dire. Et j'ai toujours exprimé là où mes frères sont beaucoup plus dans l'introversion. Moi, j'ai toujours été vachement dans la communication.
Il paraît que t'étais timide aussi, quand même.
Ouais, j'étais très timide, mais à un moment donné, j'ai switché. Je me suis dit, OK, où je continue à être timide, je me fais bouffer par la vie. Et en fait, je me donne pas de place, quoi. Je ne me donne pas de place, je me donne pas de voix aussi, avec un X et un E, quoi. Je m'en donne pas. Ou alors, bah voilà, je dis ma vérité et je dis haut et fort ce que je pense, ce que je ressens, quoi.
Et j'ai lu que tu avais fait du théâtre assez jeune. Est-ce que c'était justement pour combattre un petit peu cette timidité? Parce qu'en général, on inscrit les enfants au théâtre pour combattre une timidité ou pour canaliser une certaine énergie, exubérance.
Moi, c'était vraiment pour combattre ma timidité. Joseph, en fait, qui est un an de plus que moi, faisait du théâtre. Et Joseph était très aisé socialement. Il avait beaucoup de potes. Il était très aimé, très admiré à l'école. Et moi, non, on était dans les mêmes écoles. Hein. Et un jour, il m'a traîné, viens faire des cours d'impro au théâtre. Je lui ai dit, mais Joseph, c'est le pire truc pour moi. C'est le truc le plus... Tu veux me torturer ou quoi? C'est pour une timide, c'est ce qu'il y a de pire de faire de l'impro devant des gens qu'on ne connaît pas. Et il m'a traîné, il ne m'a pas laissé le choix. Et j'ai fait ça. Et en fait, j'ai fait une première impro. Et là, je ne sais pas pourquoi ce qui s'est passé, il y a une magie, j'ai commencé à être hyper flamboyante, hyper extravertie, hyper drôle, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma place. Là, les gens ont l'air de trouver que je suis quelqu'un de bien, vas-y, je vais faire ça, quoi.
Tant qu'on est encore à l'enfance, c'est une histoire que tu racontes souvent, mais il paraît que ta grand-mère André t'a donné un cahier à l'âge de 8 ans, un geste de transmission fort quand on connaît son parcours et toi, ce que tu es en train de créer aujourd'hui. Comment tu l'as vécu vraiment à l'époque, quand tu avais 8 ans, je crois, qu'elle t'a donné ce cahier, ce stylo?
C'était très fort pour moi symboliquement. Ma grand-mère, elle était assez mutique aussi. Elle parlait pas trop. Elle était très assez timide, assez dans ses livres et tout ça. Elle était pas extravertie du tout. Et quand elle m'a offert ce truc-là, je me suis vraiment dit, c'est un acte de passation. Je me suis dit, OK, elle te dit rien. Elle te donne ce truc comme si de rien n'était. Mais en fait, c'est pas du tout de rien n'était. C'est beaucoup plus fort et symbolique. C'est comme quand votre grand-mère vous offre un bijou qu'elle a porté toute sa vie. Il y a vraiment un acte comme ça de passation, de transmission. Et je l'ai vraiment pris comme ça. Et après, j'ai commencé à écrire des poèmes et tout. Et après, après, ces poèmes sont devenus des chansons, etc. Et aujourd'hui, j'ai gardé tous mes cahiers. J'ai vraiment un truc de pas fétichiste avec les cahiers, mais presque. J'ai gardé tous mes cahiers depuis le début de ma vie. Hein. J'ai dans ma cave, j'ai des centaines de cahiers et j'ai ce cahier rouge, hein, le premier, je l'ai et je le garde précieusement. C'est hyper important pour moi. Ces cahiers, c'est un peu des photos de ma vie aussi, quoi. Et c'est comment poétiser la vie, poétiser le monde qui est parfois tellement horrible, tellement inacceptable, quoi.
Toi qui as une carrière artistique avec plusieurs pans, on va le voir plus tard, mais c'est une carrière vraiment en 360. Est-ce qu'on pourrait imaginer une expo avec ces carnets, justement?
Ah bah complètement, on pourrait imaginer ça, on pourrait imaginer plein de choses. J'ai envie d'écrire en ce moment, enfin, depuis quelques temps, un spectacle autour de la poésie de ma grand-mère aussi, et de parler justement de ces deux femmes artistes. Ma grand-mère est née dans les années 20, on est dans les années 20 aujourd'hui, 100 ans après, et André Chédid Assé, Anna Chédid Assé... voilà, deux existences très, très différentes, mais avec une transmission évidente aussi. Et j'ai vraiment envie d'écrire un spectacle là-dessus.
Tu l'as dit, tu as écrit rapidement après avoir obtenu ce carnet. Et je crois que Joseph t'a embrigadé pour faire votre première chanson commune, vu que lui, il touche un petit peu la guitare.
Ouais.
Et si je suis bien renseigné, la première chanson s'appelait La Chèvre.
Ah, c'est dingue.
Qui était pour une bibliothécaire, une libraire.
En bas de la maison, qui nous faisait hyper peur et qui était très raciste. Et comme nous, on est évidemment égyptiens, libanais. Et pour nous, c'est tellement, tellement incroyable de... C'est parfois, cette petitesse d'esprit et tout ça nous fait tellement de mal et tellement de peine et tout. Et en fait, on avait écrit une chanson sur elle parce que... À la fois, elle nous faisait rire, à la fois, on la détestait parce qu'on la trouvait méchante. Et on avait écrit cette chanson sur elle. Ouais.
Donc, tu as fait du théâtre, de la musique, du chant lyrique et même des claquettes, je crois. Tout ouais. intéressé, vraiment. Tout est venu au compte-gouttes.
Non, tout, je suis très passionnée encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je pourrais... Enfin, c'est pas que je pourrais, c'est que je fais 30 000 trucs en même temps. Je suis très pluridisciplinaire. J'adore écrire mes clips, faire la scéno de mon spectacle, écrire des chansons, faire la DA d'un projet. Enfin, et j'ai toujours été comme ça, même petite. Je faisais des claquettes, du théâtre, de la musique. Voilà, j'ai toujours été très curieuse et j'ai beaucoup, énormément soif. Très curieuse, quoi. Très curieuse.
Et t'as entamé des études de psychologie ? Est-ce que c'était une vraie vocation ou une façon de trouver ta singularité parmi cette famille d'artistes ?
En fait, j'avais en expérimentant le théâtre, j'ai expérimenté être un autre personnage, rentrer dans la psychologie d'autres gens, dans la peau et de la psychologie d'autres gens. Quand j'étais petite, j'étais très observatrice. On me le disait, ma mère, ma belle-mère me disait souvent, c'est dingue, t'étais là et tu regardais tout le monde. Et en fait, j'avais l'impression vraiment j'étais toujours très curieuse de déceler la vérité des gens. Ah tiens, j'ai l'impression que lui, il est comme ça, ou lui, ah, j'ai l'impression que d'eux, en fait, finalement, il y a plein de trucs qu'ils n'arrivent pas à se dire. J'étais toujours dans l'analyse, même avec mes amis, il y a pas mal d'amis qui venaient me voir pour me dire, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que tu machins. Et je pense que écrire des chansons, c'est aussi ça, c'est rentrer vraiment dans l'émotionnel, dans la moelle émotionnelle, dans des trucs très sensibles, très subtils qu'on peut ne pas voir aussi à des moments. Ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je pense qu'en fait, il y a un lien pour moi direct entre la psychologie et la poésie, ou en tout cas entre l'écriture, la philosophie, la psychologie. Enfin, pour moi, c'est un monde, un seul monde, quoi. Surtout, moi, les sujets que j'aborde, c'est des sujets qui sont très intimes, des sujets de ressenti, quoi, souvent émotionnels. Donc voilà, en fait, j'ai fait ce détour-là, mais quelque part pour arriver à la même chose. Et aujourd'hui, c'est drôle, mais tout ça m'accompagne aussi dans ma vie d'artiste. C'est-à-dire que je vois le rapport que j'ai avec mon public. C'est un rapport qui est très intime, qui est très psychologique et émotionnel. Ce n'est pas du tout un rapport de surface, c'est un rapport vraiment profond.
Et comment la musique t'a rattrapé pendant ces études pour que finalement tu te dises, bon, allez, stop, maintenant je me consacre à ça?
En fait, je n'ai pas vraiment fait d'études. Hein. Je me disais, ouais, je vais faire de la psycho et tout machin. Et en fait, j'ai été très, très vite dans la musique. En fait, hein. Je n'ai même pas fait vraiment d'études de psycho. Je suis allée vite dans la musique parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont rattrapé, des opportunités. Le conservatoire de chant lyrique, mon frère Mathieu qui me proposait de l'accompagner en tournée. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Donc c'est plutôt la musique qui m'a rattrapé. En fait, quand je chantais et tout ça, il y avait un truc où même quand j'ai commencé à faire mes premières chansons, ça a suscité un intérêt tout de suite, ou alors j'ai fait un concert et puis il y a des gens qui voulaient revenir au concert, et à chaque fois que j'ai fait des dates à Paris, j'ai commencé dans des tout petits clubs, des tout petits machins, mais elles ont toujours été complètes, ça a toujours monté jusqu'à aujourd'hui, où c'est drôle, hein, encore aujourd'hui, mais j'ai commencé avec le Réservoir, puis après la Seine Bastille, puis après le Café de la Danse, la Gaîté Lyrique, le Trianon, la Cigale, l'Olympia, enfin, ça fait que monter, c'est doucement mais sûrement, ça fait 15 ans que je fais de la musique, mais en fait c'est vraiment un truc de bouche à oreille. Et c'est la vie qui m'a dit, mais c'est cette voie qu'il faut que tu prennes, en fait.
Tu m'as oublié une petite salle, un petit sentier des Halles à 18 ans.
Aussi. Sentier des Halles, ouais. Sentier des Halles.
Que tu avais toi-même réservé, je crois.
Ouais, parce que j'avais fait des chansons, mais je voulais pas trop en parler, je voulais pas trop le dire, j'assumais pas encore beaucoup. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est sur scène qu'il faut que je fasse découvrir mes chansons à mes proches. Et donc, j'ai loué le sentier des Halles à l'aide d'une amie qui me manageait un peu à l'époque, Fanta. Et on a fait ce concert, et dans la salle, il y avait tous mes meilleurs potes, ma famille, il y avait même ma psy. Il y avait tous les gens qui gravitaient autour de moi, et ils m'ont découvert comme ça sur scène. C'était incroyable, ils m'ont pas reconnu. Hein. Il y en a plein qui m'ont dit, mais c'est dingue, comme t'es une autre personne et tout. C'est drôle.
Et ta voix, c'était vraiment la base du projet, le point de départ. Et j'imagine que tu voulais savoir jusqu'où tu pouvais l'explorer. Tu t'es senti capable tout de suite de faire des chansons, de les défendre sur scène.
Ouais, complètement. En fait, le truc le moins dur que j'ai expérimenté dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. C'est de créer et de chanter. Ça, c'est ce qu'il y a de moins dur, ce qu'il y a de plus facile, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus génial. Tout ce qui est dur, c'est tout ce qui est à côté. C'est le business, c'est le machin, c'est comment ça peut devenir une économie, comment on peut vivre de ce métier, comment machin. Tout ça, c'est super dur parce que c'est un truc encore aujourd'hui, c'est des grands questionnements. J'ai sorti mon album là toute seule et tout ça. Donc économiquement, c'est pas un métier facile. À plein de niveaux, c'est pas un métier facile, franchement. C'est une industrie qui est difficile, franchement. Mais par contre, voilà, ce qui est facile quand on est passionné et tout ça, c'est de créer. C'est ce qu'il y a de plus beau, quoi.
Je te l'ai dit tout à l'heure en off, moi je t'ai découvert vraiment avec le premier album Nash.
Ouais.
Et je me souviens qu'à l'époque, tu disais que tu étais vraiment influencé par le classique. Donc quand on sait que le piano, c'est un peu ton instrument de prédilection, ça a du sens. Mais c'est le classique, c'est aussi la liberté, c'est l'impro. Tu disais aussi que tu étais inspiré par Nina Simone, qui elle aussi a un parcours de vie assez incroyable. Est-ce que, même si ce n'était pas forcément conscientisé, c'était un moyen pour toi, voilà, de désir de liberté, s'affranchir de sa famille, trouver sa place?
Bien sûr.
Est-ce qu'il y avait de ça?
Bah bien sûr, évidemment. C'est aussi, je suis la première, entre guillemets, artiste, chanteuse, femme de ma famille. Donc, il y avait aussi un truc déjà. Puis, je suis la première qui joue du piano. Ils jouent tous de la guitare et tout ça. Mais je ne l'ai pas fait du tout pour ça. Hein. C'est parce que je suis très sensible à la voix et très sensible au piano que je le fais. Si j'étais sensible à l'accordéon, je ferais de l'accordéon. Enfin, ce n'était pas un choix stratégique. Hein. Mais je me suis rendu compte, en fait, que sans rien faire, en étant juste que je suis une femme, autrice, compositrice, pianiste, chanteuse, je trouvais ma singularité, parce que en plus, c'est marrant, quand on a fait la tournée avec la famille, on s'est bien rendu compte que les thèmes que j'abordais, l'écriture, l'énergie aussi féminine n'est pas du tout pareille. Donc en fait, quelque part, j'ai eu de la chance d'être une femme, quelque part, dans cette famille, parce que ça m'a permis de trouver ma place vachement plus facilement, je pense, que si j'avais été encore un garçon avec la guitare. Enfin, je pense que ça aurait été encore peut-être un autre truc.
Donc c'est peut-être plus difficile pour Joseph aussi, qui en plus a vraiment des similarités dans la voix avec Mathieu.
En fait, Joseph, je pense que c'est difficile parce que aussi, quelque part, plus on intérieurement, on s'affranchit des choses, plus on est affranchi. Et je pense que Joseph, ça a été plus dur de s'affranchir parce qu'effectivement, c'est un garçon qui fait de la guitare, qu'il chante. Mais je pense que Joseph, il a vraiment sa singularité, sa personnalité, et que je pense que plus lui, il va se sentir singulier, plus il le sera quelque part.
Il me disait dans cette émission lui-même que s'appeler Joseph Chédid, c'était inenvisageable. Pour toi, Anna Chédid, même si toi, ton pseudonage, c'est une petite contraction entre la fin d'Anna et le début de Chédid. Donc, tu t'en éloignes pas tant, mais pareil, est-ce que s'appeler Anna Chédid, c'était pas possible?
C'était vraiment pareil. C'était pas un truc de genre, je veux pas qu'on sache que je suis de la famille. Et tout. Pas du tout. C'était vraiment un truc artistique. Nash, je me disais, ce qui était cool avec Nash, c'est que je pouvais créer un truc vraiment genre, je pouvais l'habiller comme je veux, Nash. Je pouvais la faire chanter comme je veux. Je pouvais la réinventer à chaque fois. C'est comme un avatar, quoi. Je me suis dit, ça va me permettre beaucoup plus de liberté que si je suis Anna Chédid. Ça m'amène dans un truc de patrimoine, de sérieux, de presque comme si je devais quelque part être dans cette lignée et tout. Enfin, là, au moins, Nash, je peux faire ce que je veux. Si je veux faire du hard rock, du métal, du classique et un disque de zouk, je peux le faire, quoi. C'était vraiment pour ça d'abord. Mais aujourd'hui, je me considère vraiment comme Anna Chédid. Je signe à la SACEM, c'est écrit Anna Chédid. Enfin, je suis très, très fière de m'appeler Anna Chédid. Mais pour mon projet de musique solo, je trouvais que c'était cool d'avoir un avatar.
Même si ton premier album est sorti en 2016, on l'a dit, tu faisais beaucoup de choses avant. Moi, je t'ai découvert en première partie de Mathieu en 2013. Il te prenait sur ses tournées.
Ouais.
Puis j'imagine que tu as fait tout un tas d'autres trucs. Est-ce que la difficulté pour toi, c'était pas de figer ta musique sur un premier album avec tout l'aspect studio, etc. Toi qui es plutôt une artiste de live finalement.
Ouais, bah oui. En fait, c'était assez pas compliqué, mais quand j'étais chez Polydor, enfin chez Universal, c'était aussi une industrie, quoi. Donc j'ai signé, j'avais 25 ans, j'ai fait mon premier album. Il y avait aussi pas mal d'attentes et tout ça sur cet album parce que c'était quand même, voilà, des gros budgets, une grosse maison de disques, un gros truc. Donc à la fois, j'ai fait ce que je voulais faire. Je suis très contente d'avoir fait cet album, hein. C'est un album qui est très pop, très coloré. C'est un album aussi que j'ai fait il y a 10 ans, donc j'étais pas la même il y a 10 ans, hein. Donc c'est normal que ça n'ait pas le même son, que j'ai réalisé aussi avec quelqu'un qui faisait plein de réals aussi d'autres albums et tout. Donc c'était une expérience, je regrette pas du tout. Mais en fait, je pense que c'est normal que les choses évoluent avec nous, quoi, en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Il y a des concessions que je referai plus jamais, quoi. quoi. Il y a des morceaux, je voulais absolument les faire comme ça. Et puis on m'a dit, mais non, c'est un single, faut vraiment mettre un pied sur tous les temps, faut vraiment essayer de faire. Et puis en fait, ça n'a jamais marché, parce que. Et ma version que je fais piano-voix marche mille fois mieux, par exemple, d'un morceau qui s'appelle Ce qu'ils deviennent, que j'adore, que j'ai fait piano-voix, que j'ai fait avec la famille dans une version très dénudée qui marche super bien. Et la version de mon album, on a essayé de faire une espèce de single radio qui n'a aucun sens avec cette chanson. Moi, je voulais la faire piano-voix avec des cordes. Mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, voilà, la petite de 25 ans a dit « Ah bon, bah d'accord, si vous pensez, on va le faire. » Et aujourd'hui, je peux même pas l'écouter, ce morceau. C'est quand même dommage, alors que c'est ma chanson et je l'assume même pas. Il y a des clips dans lesquels je danse, je fais des chorés. Jamais j'aurais fait ça. Moi, je leur avais proposé de faire un truc beaucoup plus fou, un peu plus marrant, un peu plus décalé. Ils m'avaient dit « Non, non, mais attends, t'es pas réalisatrice, t'es chanteuse. » Enfin, voilà. Aujourd'hui, j'écris mes clips, je réalise mes clips, je fais mes oracles, je fais mes machins, je fais mon spectacle, je fais tout et tout va bien, il y a pas de problème. Enfin,
ton instinct, il était sous cage, quoi, finalement.
Bah, en fait, c'est juste que je chantais que je pouvais pas m'épanouir totalement artistiquement et en fait, ça m'a beaucoup coûté. Je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup coûté, que quelque part mon message, le message que je voulais passer. Avait du mal à passer en fait. Et aujourd'hui, maintenant que je suis un peu émancipée de tout ça, j'ai l'impression que mon message passe beaucoup mieux.
En tout cas, ce premier album très pop, beaucoup de couleurs. Je me souviens qu'il y avait un logo très coloré aussi. Enfin, franchement, en réécoutant, je le trouve toujours aussi bien.
Ouais,
cet
moi
album.
J'aime bien ça,
album.
Il est
très cool.
Ouais.
Et Joseph, j'en parle beaucoup parce que c'est vrai que vous avez le même âge, vous avez grandi ensemble, il participe à tous les albums pratiquement.
Ouais.
Et là aussi, tu lui as demandé de bosser avec toi dès le premier album. Quoi.
Sur le premier album, je lui ai demandé de faire les guitares, et c'était super, c'était génial. Le deuxième, j'ai carrément demandé de co-réaliser avec moi le deuxième album, vraiment qu'on co-réalise ensemble. Il n'y a que le troisième, là, à Peau Neuve, où j'ai vraiment tout fait toute seule, mais ce que j'avais vraiment besoin sur celui-là, de me prouver aussi que j'étais capable de réaliser un disque et tout ça. Mais ouais, Joseph, il a toujours été, à part sur le dernier, il a toujours été intégré à ma vie, ouais.
Et je me souviens que ce premier album avait plutôt très bien marché, il faut le dire. Mais on entendait toujours, Anna, c'était pas ton prénom, c'était la fille de Louis, la sœur de Mathieu. J'entendais même des gens dire que c'est Mathieu qui t'écrivait les chansons, quoi. Comment tu l'as vécu ça à l'époque?
C'était marrant hein, quand les gens disaient mais c'est vos frères, votre père qui vous écrit vos chansons. Ben non, pas du tout, c'est moi. Enfin, quelque part aujourd'hui, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, maintenant, la plupart des interviews que je fais, on me parle plus trop de ma famille. Et quand je vais à la fin de mes concerts, les gens me parlent pas de ma famille. Hein. Ils me disent ah, voilà, ils me parlent de mes chansons. Enfin, maintenant, j'ai l'impression que j'ai trouvé ma place aussi. Et j'ai aussi trouvé ma place parce que je me suis un peu affranchie de tout ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit c'est votre frère qui vous fait, je m'en fous un peu. Et puis surtout, moi, ça me fait plaisir quelque part d'éduquer les gens par rapport à ça, de leur dire ben non. Non, c'est moi qui écris. Ah bon, mais c'est vous qui... Et après, ils me voient sur scène, ils me voient jouer, être multi-instrumentiste, chanter, machin, écrire, composer. Ils font « Putain, mais elle a du talent, en fait. » Ou alors, en tout cas, elle a un truc, cette fille et tout. Et en fait, quelque part, ça éduque les gens. Je leur fais comprendre qu'on peut être la sœur d'eux, la fille d'eux, et avoir une personnalité et un talent unique en étant la fille d'eux et la sœur d'eux. Et quelque part, si ça peut leur mettre une petite graine de « tout le monde est unique et tout le monde a un talent », bah, ce sera ma petite contribution.
Bah, transition toute trouvée, après tout ce que tu viens de dire, et si je suis bien dans ma chronologie, après ce premier album, il y a le projet de la famille, l'album de la famille.
Ouais.
Et moi, si je prends l'effet cliniquement, je me dis « elle a réussi à faire un album, à sortir de cette étiquette chédide, pourquoi elle retourne là-dedans » Enfin, tu t'es pas toi-même posé la question.
Bien sûr que si, j'étais la seule quand il a été question, puisque c'était le bon moment pour mon père et mon frère dans leur planning de le faire maintenant. Moi, je leur ai dit « les gars, je viens de sortir mon album ». Je suis en tournée, c'est pas du tout le moment pour moi, donc je ne veux pas le faire. Au début, j'étais la seule à dire je ne le ferai pas. Et donc, ils ont tous crié en disant la petite, elle pète les plombs. ben non, la petite, elle pète pas les plombs. Elle essaie de prendre sa place, les gars. Donc voilà. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit tu vas le regretter. Tu vas regretter de ne pas avoir vécu cette expérience. Et si c'est le seul moment, fais-le. Et donc, je me suis dédoublée, j'ai enregistré cet album, j'ai fait mes deux tournées en même temps, j'étais complètement... C'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je faisais un concert avec la famille, le lendemain, je faisais un truc Nash, après, je faisais une promo famille, après, le lendemain, je faisais une promo Nash, enfin, c'était... Et en même temps, tout ça, voilà, quelque part, en fait, je regrette pas du tout l'avoir fait, et j'aurais vraiment regretté de pas le faire, donc vraiment, j'ai été vraiment pas bête de le faire, je suis très contente de l'avoir fait, mais par contre, c'était important de leur dire, les gars, c'est pas si facile, c'est pas genre quand vous êtes ok, moi, d'un coup, je... Non, comprenez que pour moi, c'est hyper important de pas délester Nash et de pouvoir vraiment faire les deux bien.
Et en même temps, je sais pas si t'es d'accord, mais de vous voir tous les quatre ensemble, donc des personnes... sur le papier similaire, ben c'est à ce moment-là qu'on a vu vraiment vos différences.
Et complètement.
Même pendant les interviews, sur scène.
Complètement. Moi, ça m'a beaucoup aidé cette tournée à trouver ma place, justement, ma singularité aussi, même le retour des gens, le retour du public, de sentir que chaque membre de la famille apportait vraiment quelque chose musicalement, artistiquement aussi, chaque chanson aussi apportait. Donc, non, mais c'était un grand cadeau. Et c'était aussi peut-être un petit peu de jeunesse quand j'ai dit non, mais moi, je ne le ferai pas. C'est le moment où je commence à faire mon truc. C'était un peu d'ego, un peu de jeunesse mal placée. Mais quelque part, c'était légitime aussi que je puisse le dire. Hein. Je ne regrette pas de l'avoir dit, mais j'ai bien fait de le faire, quoi, ça, c'est sûr.
Il paraît qu'il y a un petit paradoxe chez toi, comme si tu avais deux identités vis-à-vis de ta musique. Il paraît que tu es très passionné, mais que c'est ce que tu aimes faire le plus au monde, j'imagine, mais que aussi tu as besoin d'un certain recul, de prendre la distance sur ce que tu fais.
Ouais,
c'est vrai.
Énormément, ouais. Bah, je suis très passionnée, c'est-à-dire que j'ai 12 000 idées à la seconde. Il faut me calmer. Aurélie, qui bosse avec moi, qui est mon assistante plus collaboratrice, tout ça. Et chaque fois que tous les jours je l'appelle, je dis putain, j'ai une idée. Ça fait, ah, j'en peux plus. donc voilà, j'ai un milliard de projets, un milliard de. En fait, il y a un truc où parfois je me demande si peut-être dans mon inconscient, je sais que la vie va à un moment donné, enfin, passe vite, quoi. Je le sens. Et en fait, j'ai tellement envie de faire un milliard de trucs que parfois, genre, j'ai l'impression que j'ai pas assez d'une vie pour faire tout ce que je veux faire. Et ça me rend dingue. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire un milliard de trucs. Donc, à la fois, voilà, je suis très passionnée. Quand je fais un truc, j'essaie de le faire à fond, bien et tout. Et en même temps, je sais aujourd'hui, avec du recul, que toutes les meilleures choses que j'ai faites dans ma vie ont pris du temps. Et que parfois, je veux aller très vite et je suis en quête d'absolu. Je veux que mon spectacle, en deux jours, ce soit le meilleur spectacle du monde et que mon disque, en trois jours, soit le meilleur disque du monde. Et c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est comme un bon vin, c'est comme... Voilà, faut que ça mature, faut que ça prenne du recul, faut faire des erreurs, faut se tromper, faut être... Et en fait, je me rends compte que la vie, elle apprend ça. Elle apprend, ok, vas-y, suis ton cap, fais au mieux, mais tu sais que de toute façon, ça va prendre du temps et qu'il faut être patient.
Il y a quelque chose où tu as pris du temps et moi, je considère vraiment tes meilleurs faits d'armes. C'est l'album L'Aventure, vraiment, où tu prends un peu le contre-pied du premier album. Moins d'instruments, moins de couleurs, du noir et blanc, une seule couleur sonore aussi. Et puis ce concept, toujours pareil, en 360, le court-métrage, le live et l'album.
Ouais.
Tout simplement, t'en parleras mieux que moi. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu voulais faire vraiment à ce moment-là?
Ouais, bah, L'Aventure, ça parle vraiment du passage de la jeune fille à la femme. C'est vraiment ce que j'expérimentais à ce moment-là dans ma vie. Donc il y a le morceau Dans les yeux de ma mère, qui est vraiment un symbole de transmission. Qu'est-ce que j'ai vu dans les yeux de ma mère? Quelle fille je suis? Quelle femme je deviens? Et tout ça. C'est vraiment ça, L'Aventure. Ça parle vraiment de l'aventure de la vie et du passage entre la jeune femme, enfin la jeune fille à la jeune femme. Et j'avais vraiment envie d'essayer de faire un album très pop, enfin un album assez... Ma volonté, c'était qu'on puisse écouter cet album en 2000 et ou qu'on aurait pu l'écouter en 80, dans les années 80 ou dans les années 60 ou en 2072, qui traverse le temps, cet album. C'était vraiment ça que je voulais faire dans ce disque. Et c'est pour ça, et c'est un album aussi très familial, émotionnel. J'ai une chanson qui s'appelle Joe, Les yeux de ma mère, Le bon moment, où je parle de mon envie de devenir maman et tout. Et donc, en fait, j'ai demandé à Joseph de co-réaliser le disque avec moi parce que pour moi, c'était un album aussi, quelque part, qui m'émancipait aussi de ma famille. Quelque part, je disais au revoir à la petite fille et bonjour à la jeune femme. Et donc, quelque part, j'avais besoin quelque part que Joseph m'accompagne dans ce passage.
Il y avait aussi une volonté de s'accepter, de laisser une certaine fragilité aussi dans cet album, j'ai l'impression.
Ouais, d'accepter Poids Plume, qui parle justement de ça, qui parle de se libérer, d'accepter sa vulnérabilité, quoi, et de se libérer et aussi de trouver son identité de femme.
Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans cet album, c'est qu'il y avait un point A et un point B, quoi. Une trajectoire. Ce concept d'album pour toi, le choix des chansons face A, face B, ça compte?
Ah bah, énormément. Bah, Peau Neuve, c'est
ah oui,
pour moi l'album le plus abouti à ce niveau-là. C'est pour moi, Peau Neuve, c'est une chanson de 40 minutes, quoi. C'est comme ça que je l'ai pensé, quoi. Pour moi, c'est une chanson de 40 minutes. C'est un album qui s'écoute en... Enfin, j'aimerais qu'on l'écoute vraiment comme ça, quoi. Comme une chanson de 40 minutes, c'est... J'ai le track listing de Peau Neuve. Je suis jamais allée aussi loin là-dedans qu'avec Peau Neuve, quoi.
Je te propose de parler de Peau Neuve, donc, qui raconte une naissance via une mue. Je crois que ça a été écrit après une séparation personnelle et professionnelle. Personnelle, tu t'es séparé de quelqu'un, et professionnelle, tu t'es séparé de ta maison de disques. Tout simplement, tu étais dans quel état d'esprit au moment où tu as fait cet album?
J'étais quand même dans un chaos, hein, disons-le. Séparation, déménagement, arrêt de ma tournée avec le Covid, arrêt de mon contrat chez Polydor, tout s'écroulait d'un coup. Et au même moment, ça qui était dingue. Mais parfois, la vie, c'est comme ça. Parfois, il y a un truc qui pète et tout pète, quoi. Il y a une fondation de maison qui s'écroule et puis la maison, elle s'écroule direct. Là, voilà, j'étais comme ça. Donc, j'avais plus de maison, plus de mec, plus de maison de 10, plus de tournée. J'aurais pu vraiment arrêter ma carrière. Enfin, j'aurais pu vraiment décider. J'avais plus d'attache. Donc, j'aurais pu vraiment décider d'aller changer de vie, d'aller habiter au bout du monde et faire autre chose, redevenir psy. Enfin, je sais pas. Enfin, j'aurais pu faire 12 000 trucs. Et en fait, je suis partie pendant 6 mois voyager toute seule. Je suis allée dans la Drôme, dans les Cévennes et au Maroc. Et je suis partie avec mon clavier, mon micro et mon ordi en me disant que peut-être d'écrire un album, d'écrire des chansons, ça allait me permettre de retrouver une voix, de retrouver. Des repères, en fait, de réécrire une nouvelle vie, et c'est ce que j'ai fait, quoi.
Je me souviens que pour les promos de ton premier album, tu disais déjà que tu avais une appétence pour les grands espaces.
Ouais.
Et là, vraiment, c'est ce qu'il te fallait à ce moment-là.
Ah bah là, ouais, j'avais besoin de me retrouver seule et de me reconnecter à l'essentiel, en fait. La nature, la vie, en fait. Dans ces moments de chaos et de bouleversement très, très fort, c'est super beau de pouvoir se dire que la nature te reconnecte à la vie, à l'essentiel. Et il faut repartir, pour moi, de l'essentiel pour revenir au tout, quoi.
T'as déconstruit vraiment ce que ta vie était ou aurait pu être là où tu passais ton quotidien, quoi.
Exactement, c'est-à-dire que tout l'aspect matériel de ma vie confortable était en ruine, était brûlé, quoi. Donc en fait, j'avais plus rien, j'avais un sac à dos, j'avais l'essentiel, j'avais plus rien, et j'avais tout en fait quelque part. Et je me suis rendu compte que j'étais encore en vie, que j'avais ce soleil dans le ventre, c'est une chanson de mon album, mais qui symbolise vraiment ça, l'espoir et le feu sacré, quoi. Je l'avais et c'était ça qui allait me sauver de tout, toujours, toute ma vie, et que j'en aurais d'autres, des chaos, hein, des bouleversements, des changements de vie, j'en connaîtrais d'autres, et que, en fait, j'arriverai à survivre à ça.
Quand on t'entend parler dans les interviews, et puis même en musique, tu le dis, j'ai perdu des plumes, on te sent vraiment brisé, quoi.
Ah, complètement. Ah ouais, brisé. Ah ouais. En fait, c'est vraiment le rêve de la petite fille qui s'écroule. Le rêve de l'aventure, là, cette jeune femme cette jeune fille qui devient une femme et qui va sûrement être maman et voilà, qui s'émancipe de sa famille parce qu'elle crée famille et tout, bah tout ça là, ça s'écroule. En fait non, elle va pas créer famille, tout va s'écrouler, sa vie, et puis il y a un autre scénario qui va arriver, on sait pas ce que c'est.
Je voulais que tu me parles du Maroc, parce que ça a été un lieu fondamental pour cet album.
Ouais.
En plus, la pochette de ton album, c'est le désert.
Ouais.
Le désert, tu l'as très bien expliqué, ça peut être le début de quelque chose, comme un film Star Wars, par exemple, ou la fin de quelque chose.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas, vraiment ?
Bah pareil, hein, le retour à l'essentiel. Quand je suis arrivée au Maroc, j'ai fait un hammam, mais un vrai hammam avec une femme qui vous lave, qui vous jette des seaux d'eau comme ça, et vous voyez vos peaux mortes comme ça partir dans le flot de l'eau. Et là, j'ai vraiment eu peau neuve. Je suis en train de faire peau neuve. Et en fait, là, j'ai eu un déclic dans ce hammam. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, dont je veux parler de ça dans cet album. La renaissance, la peau neuve. Comment faire peau neuve ? Comment renaître après un chaos, une traversée du désert ? Je suis rentrée super vite et j'ai écrit la chanson Peau Neuve, et après j'avais exactement la thématique de mon album. Et voilà, après Cadeau d'adieu est arrivé très très vite. Cadeau d'adieu qui est vraiment le début de l'histoire, qui est vraiment la séparation. Et puis comment se reconstruire, quoi. Soleil dans le ventre, sacré secret, la reconnexion au corps. Et puis après, le temps de vivre, la reconnexion au temps. On revient dans le tempo, on revient dans la vie enfin. Le cœur qui explose, vivante. Enfin, tout est pensé vraiment comme une renaissance, quoi. Comment renaître, et j'ai pensé tout l'album, je voulais qu'on écoute l'album en ayant ce sentiment de ok, il y a une traversée du désert, quelque chose de sombre au début, et puis il y a un basculement dans le disque qui fait que tu reviens à la vie. C'était vraiment ça que je voulais créer, quoi.
On parlait de la conception de l'album à travers la tracklist, c'est ça, pour renaître, il faut mourir une première fois, donc cadeau d'adieu.
Ouais.
Et puis après, c'est ta renaissance.
Cadeau d'adieu, après on est sur peau neuve, le changement, l'hiver qui arrive à son terme s'est inscrit dans mon épiderme, enfin, je veux renaître sous une pluie dorée, soleil dans le ventre, se rendre compte qu'en fait, ce qui va nous sauver, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, sacré secret, c'est, mais en fait, je renais, mais j'ai des sensations nouvelles que j'avais pas avant. Peut-être que ça va être encore plus intéressant qu'avant, alors. Et puis ça, et puis bam, je reprends le temps de vivre, vivante, la nature, le cœur qui explose, je retombe amoureuse à la fin de l'album. Donc en fait, se dire, putain, mais en fait, toute cette traversée sentimentale aussi, ce chaos, cette sécheresse émotionnelle et sentimentale, j'ai été seule pendant 6 mois, hein. seule, quoi, loin de ma famille, de mes amis, enfin, j'ai vu personne, quoi. Et ben non, bah voilà, mon cœur qui se réouvre, en fait, je peux retomber amoureuse, enfin, et en fait, voilà, je voulais parler de ça, quoi.
Paraît que ton père s'est inquiété, d'ailleurs. Qui te l'a dit à rebours.
Après, ouais, c'est mignon parce que je partais toute seule un peu dans des trucs un peu isolés et tout. C'était un peu dangereux. J'ai vécu des trucs un peu dangereux. Même, je le raconte dans un podcast qui s'appelle Peau Neuve. Justement, je raconte toutes mes histoires, mes aventures aussi dans la nature. Vous pourrez écouter ça si vous voulez. Et j'arrive dans les Cévennes. J'étais dans un endroit très, très isolé, vraiment. À une demi-heure d'un village où il y avait une boulangerie, quoi. Donc, j'étais vraiment, s'il m'arrivait une tuile, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et en arrivant là-bas, j'ai eu peur. Alors que je suis pas peureuse du tout. Mais là, j'ai eu peur. Je me suis dit, un peu dangereux quand même. Et parce qu'il y avait des voisins qui avaient l'air un peu chelous. J'étais la seule femme. Enfin, moi, voilà. Et j'ai appelé mon père et je lui ai dit, ah là, je flippe un peu. Et il m'a dit, ah bon, de toute façon, je suis pas très loin. Si t'as besoin, tatata. Mais il était très rassurant. Et en fait, ça tout s'est très bien passé. Et des mois après, il m'a avoué qu'il avait eu vachement peur, qu'il avait pas trop dormi et tout quand j'étais là-bas.
J'ai l'impression qu'il y a toujours quand même ce concept d'intemporalité, qu'on peut l'écouter n'importe quand, cet album. Tout le monde s'identifie aussi, peut-être.
Ouais, mais c'est très important pour moi. Et c'est marrant parce que mon album piano-voix m'a vraiment aussi fait comprendre ça. J'ai fait un album piano-voix live entre les deux tournées, là. Et en fait, j'ai l'impression que je vais de plus en plus vers ça. C'est-à-dire qu'au début, le Nash, là, le premier album, il est cool, mais pour moi, il va être plus daté, je pense, cet album, dans le temps. Le deuxième, L'Aventure, il est cool aussi, plus pop orchestral, il va être bien, je pense, à réécouter avant, après, pendant, pas de problème. Mais pareil, il y a encore des petites fioritures. Et en fait, en faisant cet album piano-voix, je me suis dit, OK, le prochain album, je veux l'arranger, mais par contre, je veux vraiment que chaque... c'est moi qui ai créé les arrangements et j'ai vraiment fait attention au fait que chaque instrument qui intervient dans les morceaux a une justification émotionnelle. C'est-à-dire que si je fais intervenir ce synthé ou cette ligne de basse, c'est parce que ça raconte un truc par rapport à ma chanson. C'est pas juste parce que c'est cool d'avoir un bass bat ou c'est cool d'avoir un synthé. Et en fait, ça a changé toute ma manière de faire de la musique.
Tu l'as dit, mais on va s'attarder dessus parce que je trouve ça génial. Tu t'investis vraiment de bout en bout, donc l'écriture, composition, interprétation, bien sûr. Mixage, arrangement, t'as suivi une formation d'ingé son. C'est un autre monde, c'est pas le même métier, ça, presque.
Non, mais en fait, ça faisait très longtemps hein, que j'avais envie de le faire et qu'en fait, j'avais les aptitudes pour le faire. J'ai toujours une grosse part dans mes arrangements et dans la réelle de mes albums. Sauf que je me faisais pas confiance et qu'on me disait, quand je disais à ma maison de disque, oh, j'aimerais bien réaliser le disque ou avoir plus de... On me disait, ouais, non, mais t'inquiète, on va prendre aussi. Regarde, ce mec-là, il a fait ci, il a fait ça, c'est rentré en radio, je sais pas quoi. Et donc, en fait, j'ai été aussi un peu frustrée, quoi, quelque part, de... parce que je savais que j'avais les capacités, quoi. Aujourd'hui, on me demande demain de réaliser un album. Je vais en studio, la tête haute, et je réalise un album. Il n'y a aucun problème, je fais des arrangements, il n'y a aucun souci, quoi. Je me sens très légitime à le faire. Donc, voilà. Et donc là, je me suis dit, ok, t'as plus de maison de disque, tu vas monter ton label, tu vas créer ton label et tu vas faire exactement ce que tu veux faire artistiquement. Tu ne feras plus aucune concession. Et c'est ce que j'ai fait.
Pour que les gens se rendent compte, c'est toi qui as décidé des niveaux des instruments, la spatialisation des instruments dans l'espace.
Ouais.
C'est un truc de fou. Et ça veut dire que tu sais faire du mastering ?
C'est pas moi qui fais le mastering, mais par contre, au mixage, j'étais présente. Et au mastering, bah, par exemple, on a fait un premier mastering que j'ai pas aimé, parce que le mastering, c'est vraiment à la fin, c'est-à-dire que c'est la dernière couche de vernis, quoi. On peut dire que c'est un peu comme l'étalonnage après le montage, on peut dire ça comme ça. C'est très important, ça donne vraiment la couleur, ça donne la chaleur, ça donne la profondeur, ça donne beaucoup, beaucoup de... Enfin, c'est très, très important en mastering. Et j'avais pas aimé le premier mastering, donc on a changé, on a fait un mastering plus organique. Donc ouais, j'ai suivi ça de près, quoi.
Est-ce que t'as dû t'imposer quand même en étant full indé comme ça, pour certains choix?
Ouais, j'ai dû m'imposer en studio. Quand j'ai commencé à faire les prises, il y avait un ingé son dans le studio dans lequel je faisais les prises avec des musiciens. Et c'est moi, j'avais bien dit à l'ingé que c'est moi qui réaliserais l'album, qui faisait les arrangements et tout ça. Et j'ai senti qu'il y avait une résistance, qu'il n'avait pas du tout l'habitude que ce soit une femme qui prenne cette place-là, que ça ne lui plaisait pas des masses. Et qu'il aurait bien aimé le faire et qu'il essayait un peu de me déstabiliser, de voir si vraiment j'avais les épaules pour le faire et tout ça. Et je ne me suis pas démontée. Et par contre, on n'a pas collaboré très longtemps parce que je lui ai bien fait comprendre que moi, il fallait qu'on soit dans un truc harmonieux et qu'on soit dans la joie de faire cet album et que je ne voulais pas qu'il se sente frustré. Donc s'il n'avait pas envie de le faire, moi j'avais vraiment besoin d'un technicien son et de quelqu'un qui me fasse confiance aussi et qui soit joyeux de faire ce truc-là. Donc, on n'a pas collaboré très longtemps, mais ça a été un super challenge pour moi parce que j'ai dû m'imposer. Et même mes musiciens me disaient, mais Anna, t'es légitime. Hein. Tout ce que tu nous dis, on comprend, c'est chambé, on est très content de le faire. Dis-lui que c'est lui qui gère pas, là. Et ça m'a rassurée.
Bah, tu parlais de la nage quand elle avait 25 ans.
Ah, j'aurais jamais pu faire ça.
Qui avait dit, ah bon, ok.
Ouais, j'aurais dit, ah bon, peut-être, oui. Enfin, voilà.
Et là, ça veut dire aussi, personne qui t'impose des temps sur chaque kick pour que ça rentre en radio.
Exactement.
C'était complètement hors formatage. Tu as suivi vraiment ce que tu avais envie de faire.
C'est ça.
Et je voulais te parler de la voix, parce que quand on enregistre en studio, beaucoup d'artistes et même de professionnels du métier disent qu'il y a toujours une certaine spontanéité, une certaine magie lors de la première prise.
Ouais.
Et dans tes voix, je trouve qu'il y a vachement ça.
En fait, les voix, ce qui est drôle, c'est que je pré-produis beaucoup, moi. Quand j'étais dans mes cabanes toute seule, j'ai pré-produit les morceaux. Donc, en fait, je suis arrivée en studio avec déjà des pré-prods, des directions d'arrangement hyper claires et tout. Et en fait, les voix que t'entends sur l'album, c'est les voix que j'ai faites toute seule dans mes cabanes.
Ah, t'avais pris un sacré micro.
J'avais pris un très bon micro. et en fait, c'est mon ex qui était musicien aussi qui m'avait dit, Anna, il y a un secret. Quand tu fais des maquettes et des pré-prods, prends un super micro. Parce que c'est souvent là qu'on garde les prix. Et il a raison.
Et ouais, parce que si t'as un truc superbe que t'arrives pas à refaire.
Exactement. Ça m'est arrivé plein de fois sur mes autres albums de devoir garder des voix avec des micros pas ouf parce que je les trouvais vraiment mieux émotionnellement. Et voilà. Donc maintenant, je prends des très bons micros.
Je vous invite vraiment à écouter le podcast que tu as fait parce que je l'ai écouté en 6 épisodes, je crois.
Ouais.
C'est vraiment génial. Et je voulais parler un petit peu de ce qu'il y a autour de cet album, de l'image. Donc, on a parlé de cette pochette dans le désert au Maroc. Superbe tenue aussi, j'aime beaucoup. et ce piano dans le désert.
Ouais, ça c'est cool.
Comment t'as fait ça?
Mais en fait, j'avais vraiment cette idée-là. Je voulais absolument... Je me voyais, quoi. Je me voyais avec un piano dans le désert. J'étais omnubilée, quoi. C'est un peu comme Poneuf. Parfois, j'ai des espèces Enfin, je suis omnubilée par des trucs. Et donc, j'allais dans le désert pour faire cette séance photo et faire ce clip et tout. C'était prévu. Et je voulais ce piano dans le désert. Et je disais à ma mère, oh là là, je rêverais un piano à queue dans le désert. Elle me disait, attends, t'es fou. Ah bon, t'es sûr, mais ça va être... c'est cher, ça, c'est irréalisable et tout. Et je m'étais renseignée et ça coûtait très, très cher. C'était impossible de faire venir un piano dans le désert avec un label indé. C'était impossible. Et j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire construire une fausse coque de piano à queue et mettre un clavier dedans. Et en fait, on a trouvé des studios d'écho à Ouarzazate, qui sont des studios, ils ont tourné beaucoup de trucs, hein, dunes et tout, plein de trucs dans le désert. Donc, il y a des gros studios de déco au Maroc, à Ouarzazate, et j'ai fait construire une coque de piano 4 mois avant, qui est arrivée dans le désert, quoi.
C'est peut-être plus difficile en Indé de mettre les moyens financiers, mais tout ce qui te passe par la tête, ça se fait, c'est quoi?
Ça se fait. Après, ça se fait avec les moyens du bord. Tu vois, les clips qu'on a faits, je les adore, hein, je les trouve super, mais c'est des clips, c'est pas de la grosse prod, quoi. C'est vraiment, on était deux dans le désert, on a fait toutes les deux, on a fait le montage avec un ami sur Pau-Neuve, et puis les cadeaux d'adieu, on l'a fait toutes les deux, le montage avec la photographe qui a shooté le truc. Donc, c'est vraiment des petits moyens, on fait tout ce qu'on peut, mais en fait, on fait tout ce qu'on peut pour dire ce qu'on a besoin de dire. Après, ça marche pas. Après, voilà, moi, j'ai pas la force de frappe d'une maison de disque de mettre plein de marketing sur YouTube et sur Spotify, faire monter mes streams, faire mes machins. Enfin, voilà, je suis hors système à la fois, et en même temps, je suis hors système, mais j'arrive à passer mon message.
Ce que tu fais, c'est pas pour te passer la pommade, mais c'est quand même fou, hein, t'es sur tous les réseaux. Tu fais du podcast, t'en as fait pendant le confinement, il y a plein de choses, tu relis tous tes concerts, tu réponds aux gens.
Ouais, mais c'est moi qui fais tout ça. Hein.
Et tu fais tout.
Et donc en fait...
Ouais, mais on le sent, on sent cette
authenticité. Mais c'est sûr qu'il y a un truc où je suis productrice, autrice, compositrice, chanteuse, interprète, enfin je fais 1 milliard de choses, et je suis web manager sur les réseaux, enfin je voue beaucoup de ma vie à ça, à Nash, à tout ça. Et je suis très heureuse de le faire. Mais c'est vrai que parfois, ça prend beaucoup, beaucoup d'espace, quoi.
Mais t'es d'autant plus fière quand ça marche, après.
Exactement.
Justement, on parlait du live tout à l'heure.
Ouais.
Cet album Pau-Neuve, c'est aussi du live. Tu le disais, un piano à queue, des machines. Moi, j'ai vu des stories où ça danse aussi.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de ce live? Parce qu'il y a une belle tournée, là.
Bah, je suis trop heureuse, trop fière de ce spectacle. C'est vraiment un spectacle où je suis seule en scène, mais qui raconte vraiment une mue, qui raconte une renaissance. J'ai vraiment travaillé énormément ma setlist en intégrant aussi des morceaux des 2 premiers albums. Et voilà, je voulais vraiment que les gens assistent à une renaissance et qu'ils vivent cette renaissance avec moi, qu'ils sentent plus libre à la fin du concert. Comme moi, je me suis sentie plus libre après ma traversée du désert. Et ça fonctionne bien. Ça marche super bien. J'ai jamais eu des retours comme ça. Les salles sont vraiment bien remplies. De plus en plus, il y a de plus en plus de dates qui tombent. J'aimerais vraiment que cette tournée dure toute la vie, quoi. C'est ça le problème. Mais vraiment, je pourrais jouer ce spectacle très longtemps, je pense.
Ça a été dur d'incorporer des anciennes chansons, tellement que le concept de Pau-Neuve est fort.
Non, parce qu'il y a tellement de chansons. En fait, c'est une thématique qui me... Poids plume, qui parle de libération, marche super bien. Ceux qu'ils deviennent, qui parlent des souvenirs, marche super bien. Les yeux de ma mère aussi, la couleur de l'amour aussi. En fait, il y a plein de morceaux qui marchent. Allô, lève-toi. Il y a plein de morceaux qui marchent hyper bien dans ce concert et qui trouvent vraiment super bien leur place. Pas tous, mais et ceux qui trouvent leur place la trouvent vraiment bien.
On a parlé de la famille en début d'épisode, forcément, parce que c'est ce qui t'a créé aussi. Moi, j'ai l'impression maintenant qu'il y a des gens qui connaissent Nash, mais qui n'écoutent pas forcément M, qui n'écoutent pas forcément Louis.
Ouais,
tu le ressens ça, vraiment?
Ah ouais, complètement. Il y a plein de gens qui...
Il y en a qui ne savent même pas, tout simplement.
Bon, il y en a qui ne savent pas, mais même il y en a qui savent et qui ne sont pas forcément fans de mon père et fans de Mathieu et qui adorent Nash. Et il y en a qui n'aiment pas du tout Nash et qui adorent M. Et il y en a qui n'aiment pas Louis. Enfin, voilà, c'est ça qui est cool. C'est que, justement, ça apprend aussi aux gens qu'on est tous uniques. Et aujourd'hui, moi, je fais des masterclass, beaucoup, pour passer ce message aussi. Transmettre aux gens qu'on est tous uniques, qu'on a tous des talents, un talent, qu'on en fasse son métier ou pas son métier, qu'on a tous le droit de porter sa voix, on a tous des choses à dire, on est tous intéressants. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai vraiment envie de passer ce message, quoi. On est tous intéressants et on a tous des trucs à dire et on a tous de la valeur. Et c'est un message, j'ai l'impression que dans cette vie, avec le jeu de cartes que j'ai eu, d'être dans cette famille et de vouloir faire la même chose et de faire la même chose, je dois aussi passer ce message-là.
Et ce que je trouve fou, c'est que vous avez des projets complètement différents et il y a quelque chose, vous avez une valeur commune vraiment quand les gens viennent vous voir en concert, parce que je vous ai tous vu en concert à des endroits différents, c'est qu'il y a une sorte de bienveillance de la part du public, je trouve. C'est pas on assiste à un concert, on se déchaîne un petit peu plus sur les tubes, entre guillemets. J'ai l'impression, moi, d'être vraiment un match de rugby où il y a une sorte de ferveur qui vous porte. Et à tous, c'est ça, Mathieu, au Cirque d'Hiver, je t'ai vu, j'ai vu Joseph au Nopi il n'y a pas si longtemps. J'ai l'impression que vous avez tous ça, quoi.
Je pense qu'on a vraiment un truc d'amour très sincère, en fait, qu'on fait ce métier pour les bonnes raisons. On fait pas ce métier pour qu'on nous dise « t'es génial, tu chantes super bien ». C'est pas par volonté égotique, c'est vraiment par volonté poétique et volonté d'amour, quoi. De partager de l'amour, de se relier à l'autre, d'essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice, d'apporter un peu de joie, un peu de chaleur, un peu de douceur, un peu de poésie, quoi, tout simplement. Je pense que comme on envoie ça, et on n'envoie pas de « dis-moi comme je suis génial, dis-moi comme je suis talentueux, dis-moi comme j'ai besoin de reconnaissance », tu vois. Je pense que les gens, ils sentent que c'est de la pureté, qu'il y a vraiment une vraie sincérité, une vraie pureté, franchement, et une vraie motivation poétique. Et donc, je pense que c'est pour ça.
Et Peau Neuve, il a été décliné en bouquin aussi. Mmh. Il y a un petit bouquin qui est sorti avec des cartes, justement.
Ouais.
Tu as dit le mot carte, ça m'a fait tiquer, j'ai oublié d'en parler.
Ouais, j'ai sorti un oracle musical. En fait, c'est un jeu de cartes poétiques et philosophiques qui est vraiment en lien direct avec mon album et les chansons de mon album qui sont déclinées dans des thématiques très précises. Le rapport au corps, à la nature, au temps, le deuil, enfin, etc., le changement et tout ça, l'espoir et tout. Et en fait, chaque carte, il y a trois cartes par chanson et ces trois cartes symbolisent à chaque fois un mouvement de renaissance, un avant, un pendant, un après. Et on peut donc recevoir des espèces de messages un peu poétiques et subtils en fonction du tirage qu'on fait, en réécoutant les chansons aussi. C'est sorti chez Erol le mois dernier et je suis très, très fière de ce jeu. Ouais.
Donc, si on veut vivre l'expérience Peau Neuve à 100%,
ouais.
C'est l'album,
le spectacle,
le spectacle
et l'oracle,
le bouquin. Il y a le petit bracelet aussi, j'ai vu.
Le petit bracelet porte-bonheur, ouais.
Bon, là, déjà, il y a de quoi faire avec cet album. Il y a une date à la Cigale qui est full. Là.
Ouais.
On parle toujours de la date parisienne, parce que c'est vrai que c'est les
ouais.
salles qui parlent à tout le monde. Et puis, tu l'as dit en début d'entretien, j'ai pas oublié, c'est l'Olympia
ouais.
2025.
Ouais. Ce qui est dingue, c'est qu'on a eu la Cigale le 18 mars 2024 et qui a été remplie... 3 mois à l'avance, là. Première fois que ça m'arrive aussi fou. Et donc, j'ai fait mon premier Olympia, qui est mon rêve depuis que j'ai 12 ans. Et c'est le 18 mars 2025, la même date, un an pile après.
Ce sera qui la première partie, la Cigale ?
Bah, je vais te le dire en exclusivité. Je sais pas quand il sort, mais bon, en tout cas, je te le
dirai. Sortira avant la Cigale.
Avant la Cigale ? Ah, est-ce que je te le dis alors ? Ouais, je vais te dire, c'est une première partie très particulière, parce que c'est une première partie qui a vraiment énormément de sens avec l'album Peau Neuve. Voilà, c'est une première partie que j'ai choisie exprès en fonction de cet album.
Comme quoi, tu laisses rien au hasard, quoi.
Non.
Donc, jolie tournée, Olympia en 2025. Bon, tu vas être pas mal occupé. J'imagine que les masterclass vont
ouais.
continuer aussi.
Ouais.
Tu as parlé de ce projet que tu aimerais faire autour de l'œuvre de ta grand-mère aussi. Est-ce que tu as d'autres projets, là, court, long, moyen terme qui
Ouais, j'adorerais écrire un livre. C'est un truc auquel je pense depuis longtemps. Et en faisant mon podcast, et en faisant l'oracle aussi, enfin les deux choses, ça m'a vraiment envie d'expérimenter cette forme poétique, d'écrire un livre. Mais donc voilà, ça c'est dans ma tête. Il y a ça, il y a le spectacle autour de ma grand-mère. Et puis j'ai un milliard d'autres trucs que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire une émission de radio. J'adore le podcast, j'adore la radio, j'adore cette oralité aussi parler. J'adore chanter, mais j'adore aussi parler. J'adore ça et j'adore justement, tu vois, le côté, c'est aussi peut-être la psy, mais j'adore rentrer dans des sujets un peu plus profondément et tout. Donc, j'aimerais bien un jour faire vraiment animer une émission de radio, mais un peu particulière autour justement de la libération créative et de l'expression. L'expression de soi, du côté aussi vachement thérapeutique de l'art. Ça m'intéresserait beaucoup.
Pendant le confinement, on s'était parlé à distance, en visio. On avait fait une petite interview ensemble, je ne sais pas si tu t'en souviens.
Mmh.
Et tu invitais des gens aussi pour
ouais.
chanter. Et j'étais persuadé qu'à la sortie du confinement, tu aurais lancé un podcast.
Ah ouais ?
Ouais, je me suis dit, je te trouvais vraiment fort dans l'exercice, assez à l'aise.
Mmh.
Ça se voyait que ça te plaisait. Tu ne l'aurais pas fait.
Mmh.
Et je pensais vraiment que tu allais donner vie à ça.
Ouais, bah, en fait, j'ai fait un podcast pendant le confinement quand même, à l'automne 2021, je ne sais plus quand c'était exactement, mais, et qui s'appelait Imagine, où j'étais toute seule dans ma cabane dans la Drôme, là, et les gens m'envoyaient des poèmes, m'envoyaient des trucs qu'ils avaient écrits, et je les mettais en musique et tout ça. Ça, c'était mon premier podcast participatif, et après, j'ai fait mon deuxième podcast Peau Neuve, là, l'été dernier.
Anna, pour clôturer cet entretien, quelques petites questions en rafale pour te connaître sous un prisme différent. Donc, comme c'est mon podcast, c'est vrai que je pose toutes les questions qui me viennent par la tête. Et
ouais.
toi, j'avais une petite curiosité depuis des années.
Ouais.
J'ai remarqué que tu avais toujours les deux mêmes bagues.
Ah, c'est drôle. Là, que tu
Mais ça fait longtemps
ça.
Que tu les as.
Ah, des années, ouais.
Et je voulais savoir à quoi ça correspondait.
C'est trop bizarre que tu me parles de ça aujourd'hui parce qu'en fait, pour la première fois de ma vie, il y a 2 jours à Avignon, j'ai fait un concert. Et je sais pas pourquoi, pour la première fois de ma vie, hein, depuis 15 ans, je les ai pas mises. Je me suis lavé les mains, je les ai enlevées et j'étais sur scène et je me suis rendu compte à la première chanson en regardant mes mains sur le piano que j'avais pas mes bagues et là j'ai commencé à flipper. Je sais pas, j'ai eu vraiment un oh
C'est quoi, d'avoir peur de les perdre? Tu te sentais nue?
Ouais, je me disais, mais j'ai pas mes bacs, comme si j'avais pas mon armure, enfin, j'avais pas mon truc pour monter sur scène, quoi, tu vois. Et j'étais là, j'ai même regardé si Aurélie pouvait aller me les chercher et tout. Mais après, je me suis dit, mais elle va rien comprendre. Si je monte mes mains, elle va dire qu'est-ce qu'elle a. Enfin, donc, en fait, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais faire mon concert sans les bagues. Et ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Mais ces bagues-là, c'est... Donc, déjà, depuis très longtemps, je travaille avec une femme qui fait des bijoux qui s'appelle Argument, qui est une amie. Et on fait plein de trucs pour mes tournées. À chaque fois, on fait des bijoux, des espèces de trucs porte-bonheur et tout. Et c'est elle qui m'a filé ces bagues quand j'ai commencé la musique, vraiment. C'est deux bagues que je mets aux index, à mes deux index comme ça. C'est très symbolique pour moi, quoi. Je les ai tout le temps et quand je les ai pas, je me sens pas en force, quoi. C'est comme des bracelets de force, j'en sais rien de ce que c'est, mais ça m'aide vraiment à. Puis même au piano, enfin, je sais pas, ça me donne une identité en fait.
Ouais, bah écoute, je l'avais remarqué, je voulais te poser la question. Ouais, c'est marrant. Ça me travaille.
C'est drôle.
Je voulais savoir tout simplement si tu avais une routine matinale incontournable.
Je la fais pas tous les jours parce que je suis tellement heureuse de me réveiller le matin, parce que quand je me réveille le matin, je suis là, putain, il y a plein de trucs chambés à faire là. Donc parfois je prends direct mon téléphone et je suis là, putain, j'ai une idée, on pourrait faire ça. Donc voilà, parfois, mais quand je suis un peu plus sérieuse, je me lève, je ne prends pas tout de suite mon téléphone, je vais me faire un thé et je fais ma petite. Je fais une méditation, enfin, je me fais des étirements en bas et je fais une espèce de méditation. J'ai un petit hôtel chez moi avec plein de trucs, des pierres, des petits totems, des petits machins que j'ai récupérés dans tous mes voyages de toute ma vie. Et je fais une espèce de méditation, j'allume une petite bougie, je me mets bien dans ma journée, je fais ça. Ouais.
Et est-ce que tu as une petite roco musicale à me donner?
Ouais, j'en ai plein, j'ai découvert plein de trucs ces derniers temps, mais le dernier morceau vraiment qui m'a le plus bouleversé là, c'est Friend of a Friend, c'est The Smile, c'est le groupe
de Tom
York, quoi, c'est ça. Et là, il y a un morceau qui s'appelle Friend of a Friend, que j'écoute en boucle, que j'adore, mais après, il y a plein de trucs que j'ai découvert. J'ai fait une playlist qui s'appelle... Ma nouvelle peau, je crois.
Sur Spotify.
Ouais, Spotify, Deezer et tout. Et j'ai mis pas mal de trucs dessus, si vous voulez écouter.
Je parle beaucoup de Joseph et j'aimerais parler de l'EP qu'il a sorti, Souffle.
Ouais.
Parce que j'ai la pochette
en
visu. Si t'avais un morceau préféré, vraiment, c'est vraiment une œuvre que j'ai envie de partager. Et si t'avais un morceau à recommander.
Bah, c'est Souffle. Hein. Moi, j'adore ce morceau. J'adore la rythmique de ce morceau. J'adore ce que ça raconte. J'adore les arrangements. J'adore sa voix. Je suis très, très fan de ce morceau. Ce ne serait pas mon frère, je le dis tout le temps. Hein. J'écouterais ce morceau comme ça qui passe. Ce ne serait pas mon frère, je serais fan, quoi. Je serais allé au concert direct. J'aurais pris des places. J'aurais envoyé un message sur Instagram. Enfin, voilà, quoi. Je le sais, quoi.
Tu participes à son nouvel album qu'il est en train de faire, là ?
Il a fait un album qui sortira, je crois, en 2025, auquel je participe, ouais. Mais là, il sort un autre truc avant, et ça, non, je participe pas.
Parce que moi, il m'a parlé vraiment d'un conte avec un personnage.
Ah bah là, oui, là, je participe à ça. Ça, je participe, ouais.
Trois dernières questions. Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un que tu aimerais me recommander, que ce soit quelqu'un que tu connais ou pas, pour que j'invite dans mon émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble. Quelqu'un de la musique ou pas
d'ailleurs. Ah bah, il y a un mec que j'adore, que je trouve hyper intéressant, vraiment. C'est un grand poète et un grand artiste. Et c'est un mec vraiment en plus très intéressant dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il partage. C'est Pierrot, P-I-R-O, Pierrot. Ouais. Voilà, un songwriter français. Vraiment, franchement, je t'invite à lui parler.
Je voulais savoir si dans ta carrière, il y avait quelqu'un à qui tu aimerais dire justement pardon.
Non, je regrette rien. J'ai toujours dit les choses aux gens au moment où il fallait que je les dise. Je les dis, j'ai dit merci, j'ai dit pardon, j'ai dit au revoir, j'ai dit pourquoi, j'ai dit comment. Enfin, au moment où il fallait que je le dise. Donc, j'ai pas de frustration ou de choses non dites ou de choses pas digérées ou de Ouais, donc non.
Et pour terminer, je voulais savoir si à l'instant T, toujours professionnellement, j'ai un petit peu ma réponse, mais quand on voit la sortie de Peau Neuve, tout ce qui se passe pour toi, est-ce que tu es satisfaite professionnellement? Est-ce que tu as une sorte de quiétude, de plénitude? On peut le dire, est-ce que tu es fière de ce que tu as réussi à bâtir?
Je suis très fière. J'ai jamais été aussi fière et je suis très très fière. Je suis fière en fait surtout de m'être fait confiance. Pas du résultat. Le résultat, je suis trop heureuse de sentir qu'il y a une résonance et que les gens aiment mon concert et tout, et mon album. Je suis ravie, mais je suis surtout fière de me dire, ok, tu t'es fait confiance, t'as travaillé comme jamais et tu t'es fait confiance sur tes choix artistiques et tout ça. Et la vie te renvoie que t'as bien fait. Ça, je suis très fière de ça. Après, j'ai tellement soif d'aventure, tellement soif de découverte et tout ça, que je suis heureuse de tous les matins me réveiller en me disant, bah voilà, la vie, il y a un milliard de trucs à explorer et c'est de mieux en mieux en plus, quoi.
Ben merci beaucoup, Anna.
Merci à toi.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Anna Chédid. Si vous voulez soutenir le projet,
vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Cadavre Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.